La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Depuis une quinzaine d'années, les manifestations de rue ont été de plus en plus violemment réprimées par les forces de l'ordre. Comment comprendre cette évolution à contre-courant d'une tendance longue qui voyait plutôt l'avènement d'une forme de pacification ? Ce retour au XIXe siècle interroge, d'autant plus qu'il semble en Europe concerner au premier chef la France, qui pourtant avait coutume de se targuer d'un certain art en matière de maintien de l'ordre. Seuls sans doute des chercheurs qui travaillent depuis très longtemps sur le sujet sont en mesure d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Et c'est le cas d'Olivier Filleul et de Fabien Jobard qui, dans Politique du désordre, analysent cette incroyable régression démocratique. Ils sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. Une suite dans les idées en direct et dans l'actualité cette semaine, puisqu'il sera question à l'Assemblée nationale ce mardi d'une loi sécurité globale qui prévoit, entre autres choses, l'interdiction désormais de filmer dans les manifestations. Filmer dans les manifestations, les images de manifestations, il en sera question. La médiatisation des manifestations, il en sera question dans la seconde partie de l'émission, alors que nous rejoindra le journaliste, réalisateur et écrivain David Dufresne, dont le film Un pays qui se tient sage est sorti voilà quelques semaines sur les écrans, un film qui intervenait après un livre sur ces mêmes sujets, Dernière sommation, paru l'an dernier. Mais pour commencer, avec vous, Olivier Filleul et Fabien Jobard, vous êtes en ligne avec nous l'un et l'autre. Vous co-signez aux éditions du Seuil ce volume Politique du désordre qui est le fruit de très longues années de travail pour l'un comme pour l'autre sur ces questions de manifestation en France et de maintien de l'ordre. Peut-être, Fabien Jobard, pourrait-on commencer par une question qui renvoie au fond à l'opportunité de ce livre. On a le sentiment en vous lisant que c'est bien ce qui s'est passé, cette séquence du mouvement des Gilets jaunes qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre, tant cette séquence a permis de voir de manière ramassée, de manière parfois même peut-être caricaturale, un certain nombre d'évolutions qui se sont produites au cours des 15 dernières années s'agissant des manifestations de rue en France.
Oui, bonjour. Je dirais que c'est un peu l'envie et la nécessité. On n'avait pas tellement envie, en réalité, avec Olivier Filleul, de repartir sur ces sujets qu'on avait travaillé ensemble, en effet, au milieu des années 90. C'est l'actualité. Et puis, ce sont aussi quelques autorités publiques, le défenseur des droits notamment, qui se sont tournés vers nous et qui nous ont demandé de les aider à comprendre ce qui se passe. Alors, on est reparti dans une enquête empirique, documentaire, et puis on a mené tout un ensemble d'entretiens pour essayer de raccrocher, au fond, ce qu'on voyait, et notamment la violence des manifestations des Gilets jaunes et de leur répression, pour essayer de raccrocher ça à ce que l'on savait, à toute la connaissance qu'on avait pu accumuler sur police et désordre en France et en Europe depuis le milieu des années 90.
Alors, en fait, l'objet manifestation, il commence à être véritablement travaillé à la fin des années 80, au début des années 90, c'est-à-dire un moment où l'un et l'autre, vous commencez à faire de la recherche. On doit un certain nombre de chercheurs, Michel Auferlet, Pierre Favre, auquel vous dédiez ce livre, le fait de s'être emparé de ce sujet, manifestation, sans doute c'était pas sans rapport avec les grandes manifestations de 1984, mais aussi le mouvement étudiant de 1986. On a l'impression, au fond, que cet objet manifestation dont la sociologie politique s'empare à ce moment-là, c'est précisément ce qui va être amené à se dissoudre au cours des 20 dernières années. Et bizarrement, on repasse de la manifestation à ce que on a connu au 19e siècle, les journées. On a une inversion, en fait. Vous parlez même d'un film qui se rembobinerait, qu'on regarderait à l'envers, Olivier Filleul.
Oui, bonjour. Donc effectivement, on a ce phénomène, c'est intéressant que vous pointiez cette espèce de crise des ciseaux entre d'un côté effectivement le développement de la sociologie des mouvements sociaux et plus précisément des manifestations effectivement lancées par Pierre Favre sans doute à la fin des années 80 et puis d'autres collègues et cette évolution des manifestations vers une sorte de retour à l'émeute quoi d'une certaine manière, c'est-à-dire une désagrégation de l'accord implicite mais aussi explicite qui se jouait entre manifestants et État, à savoir que la manifestation était un moyen d'exprimer entre deux élections des demandes, et ces demandes étaient entendues. Ça ne veut pas dire satisfaites, mais entendues. Et effectivement, cela s'est désagrégé, on va en parler sans doute aujourd'hui au cours du temps, si bien qu'aujourd'hui on n'en sait jamais autant, on n'en a jamais su autant sur les manifestations, sur leur mode de fonctionnement, sur leur mode de gestion, alors même que justement tout cela est en train de disparaître. C'est-à-dire ce monde-là est en train de s'effondrer au profit de quelque chose de nouveau qu'on a un petit peu de mal à qualifier en réalité.
Alors, ce quelque chose de nouveau, il commence à se dessiner dans les années 90, Fabien Jobard. Quand on s'intéresse au maintien de l'ordre, on ne peut pas s'intéresser uniquement à ce que fait la police. Il faut regarder les groupes manifestants, la façon dont ils se mobilisent, les tactiques qu'ils utilisent, les modes de manifestation, de démonstration, etc. Or, on voit dans les années 90 un certain nombre d'évolutions importantes de ce point de vue-là.
Oui, je pense que surtout la manifestation, c'est un jeu à plusieurs acteurs, les manifestants, effectivement, les policiers, mais aussi tous ceux à qui la manifestation s'adresse, c'est-à-dire le public, la presse et les pouvoirs. L'État le plus souvent en France. Or, dans les années 90, il se passe quelque chose tout à fait crucial. C'est le mouvement de novembre-décembre 1995, l'une des dernières grandes semi-victoires, mais victoires quand même, du mouvement social, lorsque le Premier ministre de l'époque annonce « S'il y a tant de millions de protestataires dans la rue, je retire mon projet ». Et ce faisant, il consacre la valeur de la manifestation, la valeur du rassemblement protestataire, contestataire, revendicatif sur la voie publique, dans la décision politique. Et ce retrait, cette victoire de la rue sur le gouvernement, a sonné comme le glas de cette reconnaissance. Ça a été un traumatisme, je dirais, pour les gouvernants, c'est-à-dire pour les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés. Tous ont entonné le refrain ensuite, selon lequel la rue ne gouverne pas. Et tous ont ainsi contribué à vider la portée politique, l'efficace politique de la manifestation, si bien que lorsque les gilets jaunes, lorsque des gens se protestent contre l'augmentation de la taxe sur le carburant en 2018, ils trouvent d'autres formes de protestation parce qu'ils ont sans doute tous en commun d'avoir entendu que la manifestation ne suffit pas.
Ça participe aussi d'une forme de mondialisation de ces modes d'action. L'occupation, en l'occurrence celle des ronds-points, fait écho à d'autres types d'occupations qu'on avait vues dans beaucoup d'autres pays. De la même manière, il y a une forme d'internationalisation avec des manifestations dans les années 90, Olivier Filleul, qui sont adressées aux sommets internationaux et qui, là aussi, changent beaucoup la donne.
Oui, alors tout à fait. Il y a un moment dans les années 90 un moment de changement assez fort avec l'émergence du mouvement altermondialiste, pour employer cette expression, sa diffusion un peu partout en Europe et dans les pays développés. Et cela provoque un changement assez considérable des discours et des tactiques aussi, des techniques, des livrets de maintien de l'ordre au niveau européen. Et ça se traduit par une sorte de on pourrait dire de montée des tours entre d'un côté le mouvement altermondialiste, de l'autre côté les organisations policières, qui va culminer en quelque sorte 10 ans après, donc autour de 2010, lorsque, et c'est ça qui est tout à fait essentiel pour comprendre la situation de la France aujourd'hui, lorsque plusieurs pays européens en quelque sorte tirent le constat de cette montée aux extrêmes, de cette montée des tours, et concluent que le seul moyen de faire rebaisser la tension, c'est que les pouvoirs, parce que la force est toujours du côté des gouvernants, hein, in fine, que le pouvoir mette en quelque sorte un point d'arrêt à cette montée des tours. Et donc, c'est la tentative de revenir vers des tactiques de pacification, ce qu'on appelle la désescalade dans le langage technique des policiers. Et la France, dans cette situation, donc autour des années 2010-2012, ne va pas suivre cette logique-là et va rester d'une certaine manière enfermée dans cette logique de montée des tours et donc de montée de la violence aussi de part et d'autre. Puisque, il faut le dire, on en reparlera sans doute, la violence résultant des manifestations qui nous semble être de plus en plus importante, on a l'impression que les manifs sont de plus en plus violentes, qu'il y a de plus en plus de dégradations, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais il faut jamais oublier que ce résultat est toujours le produit de l'interaction entre les forces de police, l'autorité civile, les forces de police et les manifestants. Donc, il faut commencer par dire que la responsabilité, si jamais il y avait une montée en puissance des violences, elle est forcément partagée puisqu'elle est le produit de ces interactions. Ce qui permet aussi d'insister sur un fait, ça a été évoqué au début, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas du tout, ne peut pas être pensé, on le montre dans le livre, je pense qu'on le démontre, n'est pas une cause des transformations du maintien de l'ordre. On ne peut pas rapporter, par exemple, les évolutions du nouveau schéma de maintien de l'ordre à l'évolution des manifestations et particulièrement du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes a été un révélateur de tous les dysfonctionnements, de toutes les évolutions, toutes les transformations, mais c'est tout. Rien produit de nouveau.
Mais alors, Fabien Jobard, comment comprendre ce cavalier seul de la France, pratiquement, dans les pays européens, ce choix de ne pas participer de cette désescalade? Est-ce que ça s'explique par des formes de relations particulières entre la police et le pouvoir politique en France? Est-ce que ça s'explique par vous semblez beaucoup insister sur un facteur qui renvoie à une catégorie idéologique à la fois politique et policière, qui est celle de violence urbaine.
Oui, effectivement, je pense que l'un a l'isolationnisme de fait, d'ailleurs complètement non conscient, hein, d'une certaine manière, c'est un peu nous, Olivier Filion et moi, qui en 2016 avons indiqué à la police française, aux forces de police françaises, que ailleurs ça se passait, on faisait pas comme ça. Donc ils n'en ont pas conscience. Ils n'en avaient pas conscience de cet isolement parce que la police française fonctionnait sur une conviction idéologique qui est qu'elle est la meilleure du monde en matière de maintien de l'ordre, parce que depuis 1968 et 1968 inclus, il n'y a presque eu pas de mort, en dépit d'une conflictualité sociale élevée. Aussi parce que les relations internationales de la police et de la gendarmerie française fonctionnent un petit peu en circuit fermé à l'égard des anciennes des États anciennement colonisés. Donc c'est vers eux qu'on se tourne et ça n'est pas vers les partenaires européens qui, pendant ce temps-là, eux, élaboraient, travaillaient des schémas de désescalade depuis Gênes ou depuis Göteborg, hein, depuis les sommets internationaux qui avaient résulté en des morts. Et puis, il y a ce facteur très important, vous le soulignez à juste titre, qui sont les révoltes urbaines, les émeutes urbaines, les affrontements en banlieue entre des populations protestataires et les policiers. Et ces affrontements ont été récurrents, incessants, depuis le début des années 90, depuis Auvaux-en-Velin, Mantes-la-Jolie, Sartrouville. Si bien qu'au fond, on a eu un désintérêt des policiers croissant pour le mouvement social, on va dire, pour les manifestations classiques telles qu'on les connaissait, les manifestations de masse, et un investissement très fort sur les petits désordres de grande intensité, la nécessité de la mobilité, la nécessité pour eux de trouver de nouveaux armements. Et c'est comme ça qu'on a vu une arme telle que le lanceur de balles de défense, autrefois flashball, s'inventer dans les émeutes urbaines et s'exporter ensuite de manière tout à fait naturelle, comme on l'a vu massivement, et c'est ce que documente en grande partie le film de David Dufresne, s'exporter dans la gestion des mouvements protestataires tels que les Gilets jaunes. L'idée selon laquelle la police française est confrontée à un phénomène unique qui sont les émeutes urbaines a renforcé chez les policiers cette espèce d'isolement, le désintérêt complet pour les manières dont on pouvait au contraire travailler des dynamiques de désescalade face aux manifestations.
Mais alors, Olivier Figuel, on ne peut pas comprendre pourquoi cette catégorie de violence urbaine, puisque c'est l'expression qu'utilise la police elle-même pour désigner ce qui se passe dans certains quartiers et sa manière de gérer ces situations, comment cette catégorie peut avoir eu autant d'importance si, dans le même temps, on ne comprend pas, on ne regarde pas comment la police a fait appel, selon une sorte de déprofessionnalisation, à des policiers absolument pas préparés au maintien de l'ordre, contrairement au CRS ou à la gendarmerie mobile qui habituellement s'en occupait. On a vu arriver dans les rues, là où se produisaient des manifestations, des policiers qui étaient des gens habitués à faire la police dans des quartiers ou à faire la police dans les villes, tout simplement.
Oui, alors effectivement, pour comprendre comment la culture violence urbaine a pu en quelque sorte contaminer, sans jugement de valeur là derrière, a pu contaminer le maintien de l'ordre des manifestations politiques, il faut effectivement mobiliser plusieurs éléments, parce que c'est la culture professionnelle tout entière, comme l'a souligné Fabien, de la police qui en est marquée et transformée. Et le premier élément, c'est que on a l'apparition dans les manifestations de phénomènes qui peuvent être apparentés ou qui sont apparentés aux violences urbaines. Donc c'est à partir des manifestations où, en gros, on assiste à des phénomènes de pillage de jeunes gens qui viennent dans les manifestations pour se saisir de téléphones, etc. On connaît tout ça. Donc ça permet quand même aux policiers de lire dans les manifestations qu'ils ont sous les yeux quelque chose qui ressemble aux violences urbaines. Un autre facteur essentiel, c'est, comme vous le soulignez dans votre question, c'est le développement depuis le gouvernement Jospin, hein, et puis ensuite de manière continue, donc depuis 1999, des politiques qu'on appelle de fidélisation, c'est-à-dire la mise à disposition pour des missions de sécurisation dans les zones urbaines dissensibles, de CRS, etc. Et donc tout ça a contribué évidemment à une attrition des forces disponibles.
C'est à rapprocher, et vous le faites dans le livre, Fabien Jobard aussi, de la diminution des moyens. Au fond, vous concluez le livre par cette observation que ces manifestations, prenons celles par exemple contre la loi travail, sont des manifestations qui s'opposent à une politique néolibérale et qui sont durement brutalisées et réprimées par une police elle-même, d'une certaine façon, victime de ces mêmes politiques néolibérales.
Absolument. En fait, peut-être le mouvement des Gilets jaunes donne à voir quelque chose qui serait le régime de la protestation dans des démocraties néolibérales. Néolibérales au sens où les gouvernants ont depuis 30 ans lutté contre les formes stables du salariat. Donc, par voie de conséquence, contre l'organisation des salariés, contre la capacité des syndicats à encadrer les manifestations. Et le mouvement des Gilets jaunes a été en grande partie un mouvement de salariés de petites ou toutes petites entreprises, d'indépendants, des infirmières, infirmiers libéraux, par exemple, qui n'ont pas d'organisation qui les structures représentent et les encadrent. Et en face, on a effectivement, à ces grandes forces dites forces mobiles, hein, CRS, gendarmerie mobile, se sont substituées des petites escouades de police urbaine appelées à réprimer des violences urbaines. Et d'une certaine manière, il y a une convergence, alors évidemment voulue ni même imaginée par personne au départ, hein, mais une convergence entre ce qui amène les gens à protester dans la rue et les formes de répression qu'on leur oppose.
Olivier Filleul, on a aussi une question centrale dans votre livre qui est celle du rapport entre la politique, le pouvoir politique et la police. C'est un rapport compliqué, j'ai titré l'émission « Mais que fait la police dans la rue ?» Au fond, c'est une question à prendre véritablement au sérieux parce que le maintien de l'ordre n'est pas, à proprement parler, un travail policier. C'est un travail qui, normalement, relève de la gendarmerie mobile ou de certaines compagnies républicaines de sécurité. Mais la police, vous le soulignez à un moment dans le livre, finalement, travaille de manière très, très, très différente de ces techniques de maintien de l'ordre. Donc, il y a un choc des cultures, là, au fond.
Tout à fait. Alors, qu'on soit gendarme, CRS ou policier, police urbaine, le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème d'activité. L'activité de maintien de l'ordre, est une activité de stricte exécution. Et donc, c'est une activité qui ne s'apparente pas, qui ne ressemble pas du tout à l'exercice habituel du métier policier. Donc ça, c'est un point très important que Fabien avait d'ailleurs souligné avec un de ses collègues dans un manuel qui est sorti il y a quelques années sur la police et qui insistait bien sur ce point, cette particularité de ces activités. Donc, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de marge discrétionnaire pour les agents qui font du maintien de l'ordre, et c'est pour cela qu'il est supportable, en quelque sorte, d'endurer les violences, éventuellement, lors d'une dispersion, etc., de la part de la police. Et ce qui change justement, enfin ce qui a évolué terriblement dans ces dernières années, c'est ce qu'on appelle, en reprenant l'expression de Jean-Paul Broder, un criminologue canadien, la notion de chèque en gris, c'est-à-dire l'idée que, en quelque sorte, de plus en plus, le pouvoir politique délivre un chèque en gris à la police, c'est-à-dire donne des consignes suffisamment vagues pour pouvoir ensuite nier avoir donné ces consignes, et suffisamment précises pour donner le sentiment aux forces de police d'avoir effectivement reçu une consigne et donc une ligne de conduite. Donc ça, c'est un point tout à fait important qui en quelque sorte a abîmé les relations entre la police du maintien de l'ordre et le politique, dans la mesure où on a l'impression d'observer une sorte d'autonomisation relative, certes, mais quand même, de la police face au contrôle du pouvoir politique. Autonomisation, ça veut dire quand même aussi que, d'une certaine manière, le rôle ancillaire de la police du maintien de l'ordre s'efface petit à petit au profit d'une certaine autonomie auquel le jeu syndical a contribué considérablement.
Oui, je voulais.
Et donc le résultat, pardon, c'est qu'on a une altération quand même assez profonde des relations entre la police, les autorités constitutionnelles, donc le gouvernement, l'autorité judiciaire. Et donc c'est ça qui est très inquiétant, c'est-à-dire qu'au final, on a une police dont on a le sentiment, je mets des guillemets parce que c'est une expression trop forte, qui est en quelque sorte en roue libre en matière de maintien de l'ordre.
Oui, le jeu syndical, Fabien Jobard, joue un rôle important. Là où on avait autrefois une fédération qui contenait un certain nombre de revendications de la police, il y a une forme de surenchère syndicale qui s'est mise en place et qui, associée à certains phénomènes médiatiques aussi, où vous en parlez, les chaînes d'information en continu sur lesquelles, ou les réseaux sociaux sur lesquels des syndicalistes policiers peuvent prendre la parole, donne le sentiment que la police tient un discours politique face au pouvoir politique et qui participe de cette autonomisation.
Alors, en fait, que les syndicats policiers tiennent un discours politique, ça a toujours été, et c'est d'ailleurs un peu partout le cas, même dans des pays où la police est tout à fait tempérée comme en Allemagne. Ce qui s'est passé en France par rapport à l'époque de la FASP, de la Fédération Autonome des Syndicats de Police que vous évoquez, hein, et au rôle qu'a pu jouer quelqu'un comme Bernard Delplace en 1986, qui essayait de tempérer justement l'action des forces de l'ordre. Aujourd'hui, les syndicats de police sont dans une situation de concurrence permanente, qui est d'ailleurs une situation de concurrence qui avait été encouragée au début des années 2000 par les pouvoirs en place, et notamment par le ministre Sarkozy. Et cette concurrence permanente fait que chaque syndicat est hyper attentif au moindre signe de défaut de soutien que pourrait envoyer le syndicat adverse. Et donc ils se tiennent tous les deux, les deux forces syndicales en concurrence, ils se tiennent tous les deux par la barbichette, et donc c'est un jeu de course à l'échalote à qui ne cédera jamais sur l'impératif absolu de défense des policiers, un impératif supérieur par exemple, l'impératif de l'ordre public. Je veux dire par là, lorsqu'une intervention de police génère plus de désordre que les désordres qu'elle est supposée réprimer, alors cette intervention de police ne doit pas avoir lieu. Ça, c'était un principe fondamental du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, lorsqu'une intervention de police a été mal conçue, mal menée, mal faite, qu'elle a entraîné des désordres, les syndicats de police ne supportent pas qu'elle soit remise en cause. Et ça, et tiennent évidemment le pouvoir politique en joue avec cette rhétorique, qui du coup, on l'a vu pendant tout l'épisode des Gilets jaunes, le pouvoir politique se rangeait à l'argumentation, à la rhétorique maximaliste des syndicats de police. Il a fallu attendre janvier 2020, l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi sans doute la mort de Cédric Chouvia, pour que le politique tente de reprendre la main sur la façon dont on peut diriger en France la police.
Alors tout ça participe des explications qu'on peut apporter pour essayer de comprendre cette régression, cette brutalisation. Il y en a d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui tiennent par exemple à la judiciarisation des manifestations, à la faiblesse aussi et à l'affaiblissement du droit de manifester. Droit de manifester reconnu très tardivement dans le droit positif à travers des jurisprudences et qui a été malmené par des lois récentes. Et puis évidemment, il y a une question qu'on a volontairement laissée de côté. Vous disiez tout à l'heure, Fabien Jobard, que les manifestations s'adressent à un public et souvent à travers les médias. C'est celle des médias, des images, dont on va parler dans la seconde partie de l'émission avec David Dufresne qui nous rejoindra. Mais avant ça, je voulais faire en musique un petit détour historique par le mois de mai 1970, durant lequel la garde nationale d'Ohio ouvrait le feu sur le campus de Kent State University, tuant 4 étudiants. C'était en mai 1970 et en juin 1970, un mois plus tard, Neil Young enregistrait Ohio. Il avait 25 ans. 50 ans plus tard, donc, il en a 75. Il les a eus cette semaine. Et il venait de sortir une nouvelle version de cette chanson sur un album très politique et anti-Trump paru pendant la dernière campagne présidentielle. Pays qui se tient sage, c'est le titre du film que David Dufresne a sorti voici quelques semaines sur les écrans des salles de cinéma. Il n'y a pas que le pays qui se tient sage, David Dufresne aussi, depuis le début de cette émission, qui nous a écouté sans dire un mot. Bonjour, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour.
Alors, je le disais, ce film sorti il y a quelques semaines, dans lequel on trouve, on entend, on voit d'ailleurs Fabien Jobard parmi d'autres intervenants, qu'ils soient chercheurs ou policiers ou juristes. Mais dans ce film, on voit aussi beaucoup d'images que vous avez récupérées. On le sait, mais je le rappelle, David Dufresne, vous avez créé un mot-clé pendant le mouvement des Gilets jaunes, Allô Bovo, qui vous a permis de faire un travail journalistique très singulier en recensant un certain nombre d'incidents, de gros problèmes pour certains, de plus petits pour d'autres. Vous avez fait un travail précieux. Vous avez sans doute pu le faire dans la position qui était la vôtre de journaliste indépendant. Et c'est ça qui vous a conduit à imaginer ce film en réunissant un maximum de ces images qui sont aujourd'hui d'ailleurs mises en cause, David Dufresne.
Enfin, les images sont peu mises en cause. Ce qui est mis en cause, on va
c'est
en parler.
C'est l'avenir des images, oui.
Qu'elles puissent, c'est l'avenir de ces images. Mais parce qu'effectivement, c'est devenu un enjeu central. D'ailleurs, dans le livre de vos invités, il y a, je crois, un chapitre entier qui est consacré à cette question de la communication. Olivier Filleul disait tout à l'heure que les Gilets jaunes avaient servi de révélateur pour le maintien de l'ordre, pour quantité de choses. Mais ça a aussi servi, si vous voulez, de révélateur pour une partie de la population française qui a découvert à cette occasion, grâce à ces vidéos, ces photos, cette documentation qui avait une brutalité policière. Parce que la brutalité policière, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas de 2018-2019. Elle s'abat dans les quartiers, ça a été un peu évoqué par Fabien Jobard à l'instant, depuis 20, 30, 40 ans, elle s'abat depuis toujours finalement. La clé, la grande différence, c'est qu'elle est documentée, cette brutalité, elle est filmée, elle est photographiée et c'est diffusé. C'est-à-dire que c'est pas gardé. Et donc effectivement, il y a eu tout d'un coup un enjeu absolument incroyable qui a pris totalement de court l'appareil policier, l'institution policière, les syndicats qui étaient au départ tétanisés, qui aujourd'hui répondent par une communication extrêmement véhémente à l'égard des journalistes, à l'égard des collectifs, à l'égard des avocats, à l'égard de certains politiques. Il faut lire les tracts de certains syndicats, il faut lire les tweets de certains syndicats. Le ton est extrêmement véhément pour rester poli. Donc effectivement, ces vidéos principalement qui ont pu être diffusées en quasi direct, c'est-à-dire sans passer, et là je vous rejoins, c'est-à-dire la question de l'indépendance journalistique joue, sans passer par le filtre dans un premier temps des chaînes d'information qui ont retenu considérablement ces images. Elles les ont retenues, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même un mois ou deux pour que, grosso modo, la presse se rende compte de ce qui existait. Ce qui était terrible d'ailleurs, c'est que vous aviez des journalistes de chaînes d'info, des caméramans, qui eux filmaient, mais qui ne voyaient pas leurs images à l'antenne. Donc effectivement, il y a aujourd'hui un enjeu extrêmement important parce que, si je puis me permettre, il y a deux contre-pouvoirs qui sont possibles aux violences policières. Il y en a un, c'est l'IGPN, la police des polices. C'est un thermomètre qui est cassé. Et il y en a un second, c'est grosso modo les collectifs, les réseaux sociaux, les journalistes indépendants, les avocats. Et là, on essaye, le législateur, mardi, va commencer, puisque c'est mardi que la loi va être discutée, va essayer de casser ce deuxième thermomètre. En tout cas, de faire en sorte qu'il ne fonctionne pas ou qu'il fonctionne mal en floutant les images, les visages des policiers, etc. C'est-à-dire en déréalisant cette violence policière qu'on ne veut pas voir.
Fabien Jobard, David Dufresne insiste, et je l'avais fait avant lui dans ma question, sur le caractère indépendant des journalistes qui ont produit ces images ou qui ont produit ce travail comme celui de David Dufresne de recensement de tous ces événements. Vous parlez dans votre livre d'associer rivaux pour qualifier les relations entre les journalistes et la police. On a le sentiment, en regardant ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qu'ils étaient davantage associés que rivaux et qu'il a fallu des journalistes indépendants pour faire bouger ces choses.
Ouais, effectivement, la presse a réagi tardivement sur ce qui se produisait dans les rues, pas seulement bien sûr de Paris, dans les rues de Paris, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Marseille et autres. La presse a réagi tardivement. Et ce qui est très intéressant sur la mobilisation de la presse, c'est que dans le fond, ce sont les journalistes indépendants qui d'abord ont alerté. Et les rédactions instituées ont d'abord puisé dans les images et les argumentations de ces journalistes indépendants. Quand je dis journalistes indépendants, c'est-à-dire quiconque se saisit d'un moyen vidéo pour enregistrer et diffuser ce qui se passe.
Journalistes de fait plutôt que journalistes de statut.
Journalistes de fait, on est d'accord, c'est ça. Des journalistes de fait. En fait, la révolution technologique majeur de ces dernières années, c'est que tout citoyen, qu'il soit manifestant ou pas, est désormais journaliste en puissance. Ce qui, à mon avis, du reste, frappe d'inanité l'article 24 de la loi qu'évoquait David Dufresne à l'instant. Si les policiers entreprennent d'interpeller et saisir le matériel de l'ensemble de ceux qui sortent leur téléphone portable à un moment T sur une manifestation, ils seront très vite dépassés par l'ampleur de cette révolution. Tout le monde filme. Et aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, la police également filme ce qu'elle fait et filme les manifestations. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que vous avez évoqué le phénomène de la judiciarisation tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire poursuit les auteurs d'infractions en manifestation. eh bien, elle a recours, cette autorité judiciaire, aux images qui sont diffusées sur YouTube.
Alors,
vous voyez, tout le monde y a recours. La presse instituée,
la justice,
les procureurs.
David Dufresne, sur ce type de journalisme, c'est très important et ça change beaucoup de choses que chacun puisse filmer, contribuer, participer au fond au journalisme. Mais quand même, il y a aussi des compétences spécifiques à des journalistes. Vous n'auriez pas pu faire le travail que vous avez fait si vous n'aviez pas été quelqu'un qui disposait d'une expérience, d'une expertise sur ces questions de police et de justice, et qui en même temps bénéficiait d'une grande indépendance parce que vous n'étiez plus rubricard, pas dépendant des sources policières, et vous pouviez à la fois avoir le meilleur des deux mondes, au fond, David Dufresne.
Oui, enfin, c'est une indépendance chèrement acquise, mais c'est une autre question. Écoutez, jusqu'à 20-30 ans, les journalistes, les nouvelles cartes de presse étaient décernées à des gens qui apprenaient sur le tas. Je veux dire que le travail de journaliste, pendant un siècle, il n'y avait pas d'école de journalisme. Ça s'apprenait sur le tas. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec la Fédération européenne des journalistes, ils vous disent bien que le journalisme n'est pas un métier, mais une pratique. Et qu'en effet, cette pratique, elle réclame des compétences. Mais ces compétences, vous pouvez, par exemple, les acquérir au fil du temps. Moi, j'ai vu...
Il suffit pas d'une carte bleu-blanc-rouge.
Je me suis appuyé sur des images de vidéastes amateurs, professionnels, semi-amateurs, qu'importe, qui ont d'abord eu le courage de filmer tout ça, il faut quand même leur rappeler. Mais ce que j'ai vu au fil des mois et qui était, de mon point de vue, absolument magnifique, c'était justement des gens qui se professionnalisaient, à la fois dans la technique, dans l'équipement, dans le regard, dans le rendu. Et ça, c'est absolument magnifique. On voit bien, dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, qui a été évoqué tout à l'heure, hein, qui est donc ce qui donne aujourd'hui le là de comment le maintien de l'ordre va être fait. Il y a toute une page pour essayer de revenir au temps de l'ORTF. C'est assez fascinant. La place Beauvau nous dit qu'elle va travailler avec des journalistes accrédités, qu'ils doivent avoir dûment leur carte de presse. La carte de presse, en réalité, c'est pas une carte professionnelle. Vous pouvez être journaliste sans avoir la carte de presse. Et il y avait des journalistes qui l'ont eu, qui n'étaient pas vraiment journalistes.
Mais j'en connais.
Passons. Vous en connaissez. Donc, si vous voulez, cette question-là, elle est intéressante évidemment, mais en fait, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire que c'est la place Beauvau, c'est certains syndicats de police qui disent oui, mais tout ça, ce sont pas des journalistes, tout ça, ce sont des militants, etc. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée de casser le thermomètre. Des gens comme Tahabouaf, sans eux, il n'y a pas l'affaire Benalla. Gaspard Glanz, sans lui, il y a quantité de pratiques policières qu'on ne connaît pas. Stéphanie Roy, c'est la même chose. Je pourrais vous en citer énormément, Clément Lannot, etc. Tous ces gens-là qui ont moins de 30 ans, c'est une génération spontanée qui éclot, mais pour moi, c'est le même phénomène, si vous voulez, que Libération dans les années 70 ou Albert Londres. C'est la même chose. C'est l'idée d'aller sur le terrain, de rapporter ce qui se passe, etc. Donc, effectivement, alors évidemment, il y a de l'apprentissage et que parfois, il peut y avoir des erreurs, mais il n'y a pas d'erreur sur BFM. Il n'y a pas d'erreur sur TF1. Quand est-ce que BFM, TF1 admettent leurs erreurs? Jamais. Jamais. Alors, ce qui est, à mon avis, très important de rappeler, c'est par exemple ce que dit Michel Forst dans Un pays qui se tient sage, dans mon film. Michel Forst, c'est le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains. Il parle de révolution. C'est ce que disait à l'instant Fabien Jobard. Il parle de révolution, que le fait que aujourd'hui, dans le monde entier, pas uniquement en France, mais que dans le monde entier, les défenseurs des droits, qui sont les citoyens, les journalistes, les activistes, qui vous voulez, puisse filmer, documenter, pour une institution aussi vénérable et aussi peu révolutionnaire que l'ONU, c'est une révolution. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas comprendre les enjeux qui vont avoir lieu dès mardi à l'Assemblée nationale si on n'a pas cette idée-là. Donc, la contre-révolution consiste à dire on ne veut pas que vous montriez ça. Plutôt que de réfléchir à pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a 27 personnes qui ont perdu un œil pendant les gilets jaunes, 5 une main? Pourquoi Zineb Redouane est morte? C'est de ça dont on devrait parler, et non pas de est-ce que les messagers ont le droit de porter ou non le message.
Quand, dans le livre que vous avez terminé avant ce projet de loi, Olivier Figuel, vous parlez de guerre de la com, mais l'expression prend vraiment tout son sens.
Oui, tout à fait. à la fois garde la com au sein même des disons des spécialistes, enfin de ceux qui couvrent l'information, donc entre les médias mainstream et ces journalistes indépendants qui ont effectivement explosé en nombre. Hein. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, ça, c'est une parenthèse, le mouvement des Gilets jaunes a provoqué aussi a suscité une quantité de vocations. Il y a énormément de gens même des journalistes mainstream qui se sont mis à filmer avec leur téléphone, etc. Donc ça, c'est un point important et je suis pas sûr qu'on va revenir en arrière là-dessus. Et donc effectivement, il y a une guerre de communication au sein même donc de tous ceux qui prétendent à couvrir l'information, et puis évidemment entre, Fabien l'a évoqué rapidement, entre les forces de police et les médias, une guerre autour de la production d'images et de l'interprétation d'images. Et c'est vrai que le projet de loi qui va être discuté, et qui consiste en quelque sorte à résoudre le problème de manière simple, on supprime un des protagonistes, du coup il n'y a plus de conflit, il n'y a plus que nous qui produisons des images avec des journalistes embarqués, etc., est totalement effrayant. Enfin, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire que, comment dire, même si c'est pas très 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 poli de le dire comme ça, mais c'est totalement scandaleux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est en train de nous vendre quelque chose qui ressemble au monde merveilleux dont on parle beaucoup ces temps-ci, de d'Aldous Huxley ou de Orwell. Et ça, c'est vraiment très très inquiétant.
On terminera là-dessus. Très inquiétant. Ce sera le mot de la fin. Olivier Filleul, Fabien Jobard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes les auteurs tous les deux de Politique du désordre, la police des manifestations en France, qui paraît aux éditions du Seuil. David Dufresne est l'auteur et réalisateur du film Un pays qui se tient ça. Mais il avait auparavant publié Dernière sommation aux éditions Grasset, des références que vous trouvez sur la page de l'émission La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez écouter l'émission et télécharger le podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Laurie Vachon, à la réalisation Marie Placé.